Décryptage. Marion Kazanov.
Des milliers de personnes se sont rassemblées à New Delhi, en Inde, à l'appel de l'opposition. C'était hier, pour protester contre l'arrestation du ministre en chef de la capitale, Arvind Kejriwal, et qui est aussi l'un des principaux opposants du Premier ministre Narendra Modi. Depuis, il a été transféré dans une prison de haute sécurité. Il est accusé d'avoir accepté des pots de vin, une affaire très controversée. Pour les partisans de Kejriwal, c'est une énième tentative des conservateurs au pouvoir pour museler l'opposition, et cela à moins de 3 semaines des législatives. Alors la plus grande démocratie du monde, comme on l'appelle, est-elle menacée? C'est la question qu'on se pose ce soir dans Décryptage. Bonsoir Jean-Luc Racine.
Bonsoir.
Directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior à Asia Centre, spécialiste de l'Inde. Merci d'accepter l'invitation d'RFI ce soir. Je parlais donc de cette arrestation d'un leader de l'opposition, une arrestation politique pour Sanjib Mukherjee, professeur en sciences politiques.
Ils ont récemment arrêté le ministre en chef de l'État du Jharkhand et maintenant Kejriwal. Les deux étaient des figures centrales de l'alliance d'opposition India et ils les ont arrêtés sous une loi draconienne qui ne permet presque jamais de libération sous caution. Juste avant les élections, le gouvernement change ainsi les règles du jeu pour défavoriser l'opposition et cela viole le caractère de la constitution indienne qui repose sur des élections démocratiques.
Et voilà, donc ces derniers mois, l'opposition a subi bien des revers. Il y a donc ces arrestations. En décembre aussi, 140 députés ont été exclus du Parlement, députés d'opposition. Jean-Luc Racine, pourquoi cibler l'opposition alors que le BJP au pouvoir, les nationalistes hindous, sont largement favoris de ces législatives?
C'est une très bonne question parce que justement, tous les sondages donnent le BJP, le parti de Narendra Modi, comme vainqueur avec une large marge d'avance, alors que l'opposition met en avant cet argument, mais pourquoi mettre des bâtons dans les roues au parti du Congrès quant à ses finances? Pourquoi arrêter des leaders de l'opposition? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que au-delà du discours ambiant, il y a une inquiétude dans les rangs du BJP et qu'on a besoin d'affaiblir l'opposition? Moi, je n'ai pas de réponse précise, évidemment, à offrir sur cette question, mais il est clair en tout cas qu'un certain nombre d'analystes indiens, j'entends, et pas internationaux aussi, mais indiens, s'interrogent sur les conditions dans lesquelles le plus grand scrutin du monde va se dérouler, parce que les élections donc, qui vont commencer le 19 avril et se clore le 1er juin, c'est 960 millions d'inscrits. Aux dernières élections générales en 2019, il y avait 67% de votants, ce qui est un chiffre très remarquable, bien sûr. Donc c'est effectivement, quand on parle de l'Inde, la plus grande démocratie du monde, qui est devenu un cliché et qui est utilisé parfois plus à l'étranger qu'en Inde même, en tout cas dans les rangs de l'opposition. Mais en tant que consultation électorale, elle est d'une ampleur effectivement inégalée.
Mais alors, de quoi, si Narendra Modi est majoritaire, enfin, il est largement donné favori, est-ce qu'il a peur d'un retournement de situation? Comment lui, il aborde ce scrutin? Est-ce qu'il y a des inquiétudes?
Alors, il n'y a pas d'inquiétude manifeste, puisque aux dernières élections, le BJP avait 303 députés sur un parlement de 543. Et là, le BJP se donne pour cible, pour lui, le parti, 370 élus, ce qui est un signal, parce que 370, ça renvoie à l'article 370 de la Constitution qui accordait certaines marges de manœuvre, certaines marges d'autonomie dans l'État du Cachemire, le seul État indien à majorité musulmane, des marges d'autonomie qui ont été supprimées par Narendra Modi quand il a été réélu en 2019. Donc on joue sur ce chiffre, mais en principe, des élections normalement conduites, si l'on en croit encore une fois les sondages, devrait lui permettre une victoire confortable. Donc la lecture de l'opposition, au-delà de dire oui mais c'est parce qu'il est inquiet, ça souligne quand même le fait que le BJP entend tout contrôler. Et ça vaut aussi bien pour les ennuis qui peuvent être faits à l'opposition. Donc d'un côté, il y a ce ministre en chef de New Delhi qui est maintenant sous les verrous. Il y a une plainte du parti du Congrès qui considère que le service des impôts est en train de lui créer des difficultés et donc d'amoindrir ses ressources financières pour conduire la campagne électorale, ce qui explique donc qu'un certain nombre d'analystes s'interrogent sur ce que sera la qualité des élections à venir.
Parce que l'opposition craint aussi des fraudes, c'est ça ?
Alors, l'opposition craint des fraudes, entre autres parce qu'il y aura possibilité de voter en ligne, et c'est un point d'interrogation pour l'opposition. Est-ce qu'il y aura des manipulations qui sont évidemment plus difficiles à identifier que lorsqu'on se trouve dans une salle d'école avec des observateurs qui regardent comment se passent les dépouillements. Donc il y a des inquiétudes, mais qui vont au-delà en fait de du déroulement des élections, puisque la grande question, bien sûr, c'est que se passera-t-il si Narendra Modi est effectivement réélu, qu'est-ce qu'apporterait ou retirerait du reste un troisième mandat. On a vu après le deuxième mandat que des points qui étaient dans le programme du BJP de longue date se sont trouvés résolus, deux sur les trois points principaux. Le premier, je l'évoquais, c'est la fin du statut spécifique du Cachemire. Et le deuxième, c'était la construction donc, du grand temple symbolique du renouveau de l'hindouisme, de la réaffirmation de l'hindouisme à Ayodhya, l'inauguration ayant été faite il y a quelques semaines, et où on a vu le Premier ministre quasiment jouer un rôle décisif dans l'inauguration de ce temple. Un certain nombre de hauts personnages religieux se sont d'ailleurs posé des questions sur le rôle que le Premier ministre entendait jouer. Donc l'enjeu, c'est au-delà de la façon dont se dérouleront les élections, c'est que se passera-t-il en cas de victoire ? Est-ce que dans un troisième mandat, la marche vers un État hindou, qui fait partie du programme de l'Association des volontaires de la Nation, qui va fêter l'année prochaine son 100e anniversaire et qui est en quelque sorte la matrice idéologique du parti au pouvoir, créer une nation hindoue, ça voudrait dire soit on le fait sans changer la constitution, donc en la contournant en réalité, soit on va jusqu'au bout et éventuellement donc on fait des amendements à la constitution. C'est un des points d'interrogation, mais évidemment avant tout cela il faut voir ce que seront les résultats.
Et Jean-Luc Racine, est-ce que aussi on pourrait imaginer que dans un troisième mandat, Narendra Modi accélère, accentue l'oppression envers les minorités du pays, notamment la communauté musulmane?
Oui, bah ça fait partie un peu de la ligne de force, hein, avec des subtilités. Par exemple, dans ce qu'on appelle le Sangh Parivar, c'est-à-dire la famille des organisations nationalistes hindoues, il y a une organisation pour des musulmans. Un des porte-parole du parti est musulman, alors qu'il n'y a quasiment plus de ministres musulmans au sein du gouvernement. Et en même temps, pour essayer de gagner du terrain électoral, on a vu le BJP essayer de gagner des voix dans des partis d'électorat musulmans en fonction de leur caste. Donc là, on rejoue dans le monde musulman ce qui se joue dans le monde hindou majoritaire, hein, c'est 80% d'hindous dans la population indienne. Mais fondamentalement, effectivement, et ça a été marqué dès le premier mandat et ça a continué sous le second, ce sont les attaques qui ont pu être menées contre des musulmans avec des organisations qui ne sont pas directement le parti, mais auxquelles on laisse des marges de manœuvre. Et généralement, quand il y a des incidents, le Premier ministre reste silencieux et ne prend la parole que lorsque la presse commence véritablement à poser beaucoup de questions. Donc cette question-là reste bien sûr une question d'actualité. Et une source d'inquiétude pour la communauté musulmane.
Et alors Jean-Luc Racine, récemment la Cour suprême indienne a ordonné de mettre fin à ce qu'on appelle le système des bons électoraux mis en place par Modi en 2017 pour financer des partis anonymement. La liste des entreprises qui ont donné a été publiée depuis. Et leur point commun à ces entreprises, c'est qu'elles l'ont fait juste après une descente de la police ou du fisc, donc en quelque sorte elles se seraient senti obligé de faire des dons, et c'est le BJP qui en aurait le plus profité. Je voudrais qu'on écoute cette explication de Jagdeep Chopkar. Il est directeur de l'Association pour la réforme démocratique.
Pour les entreprises, ces dons peuvent être un moyen de récupérer l'accès à leurs comptes ou d'empêcher la saisie d'autres fonds. Nous savions déjà qu'il y avait un lien caché entre les entreprises et les partis politiques. Cela le révèle clairement et en donne des preuves.
Et voilà, ce système des bons électoraux, ça veut dire quoi ? Qu'il y a eu un système de, en quelque sorte, de corruption organisée. Le parti du Congrès, en tout cas, parle, lui, du plus grand scandale de l'Inde indépendante.
Oui, alors bon, on entre évidemment dans des champs polémiques hein, quant au vocabulaire, mais effectivement, il y avait quand même un point d'interrogation quand le gouvernement décide que des donations à des partis politiques puissent être anonymes. Et c'est donc bien la mesure qui avait été prise avec ce qu'on a appelé donc les bons électoraux, qui vient d'être condamné donc par la Cour suprême, mais après des années de fonctionnement. Or, quand on reprend les statistiques, jusqu'en mars 2023, et ça a commencé pratiquement en 2019, on s'aperçoit que le BJP a obtenu à peu près 55% de l'ensemble des dons qui ont été faits, puisque maintenant, sur injonction de la Cour suprême, les chiffres ont été donnés par une banque publique indienne qui avait le monopole de ces bons électoraux. Donc 55% pour le BJP, alors que le Congrès est à moins de 10%. Donc, il y a deux questions distinctes, en fait. Hein. Il y a ce système favorise évidemment le parti dominant, mais le favorise très notablement. Et il y a le point que vous souleviez, est-ce qu'un certain nombre d'entreprises ont finalement acheté une certaine marge de manœuvre en donnant de façon anonyme à des partis politiques, et en particulier, bien sûr, à celui qui est au pouvoir.
Et d'ailleurs, si la Cour suprême, la plus haute juridiction, donc, a fait annuler ce système de dons, c'était pour assainir le financement électoral. Est-ce que ça montre qu'il y a encore des institutions neutres, et est-ce que la Cour suprême va le rester ? Est-ce que Narendra Modi peut intervenir ?
Alors, c'est une grande question, parce que la Cour suprême, on la voit parfois, comme sur cette affaire des bons électoraux, se démarquer clairement de la ligne du pouvoir, alors que, par exemple, elle a accepté le changement de statut du Cachemire, alors qu'en théorie, le changement de statut du Cachemire devait être conduit par l'Assemblée du Cachemire et le gouvernement du Cachemire. Or, à ce moment-là, il n'y avait ni Assemblée ni gouvernement. C'était sous la tutelle directe du gouvernement. Donc on voit que la Cour suprême ne se prononce pas systématiquement pour ou contre, alors que, et ça, ça fait partie des accusations de l'opposition, un certain nombre d'instances, et en particulier les instances qui traquent les délits financiers, paraissent obéir aux ordres en visant tout particulièrement les personnalités ou les partis d'opposition. Une question qui est posée aussi, c'est celle, on va dire, de l'équivalent de la Cour des comptes, hein, ça s'appelle « Controller and Auditor General of India », où l'opposition reproche à cette instance, qui donc, encore une fois, c'est un peu l'équivalent de la Cour des comptes, d'avoir des audits défaillants sur les programmes gouvernementaux ou bien de ne pas publier les rapports d'enquête sur comment s'est passée telle ou telle opération, tel ou tel programme, etc. Mmh. Donc, il y a ça, et il y a aussi, bien sûr, le fait que, mais ça, c'est pas tout à fait neuf, les militants, les responsables donc, de l'association des serviteurs de la nation que j'évoquais tout à l'heure, cette espèce d'institution matricielle du nationalisme hindou, eh bien, ont placé leurs gens dans les ministères, dans les universités, etc. etc.
Alors, l'opposition dénonce régulièrement voilà, c'est des dérives autoritaires, elle craint même la mort de la démocratie indienne. Est-ce que, pour vous, ces inquiétudes sont fondées ? Est-ce que la démocratie indienne est en danger aujourd'hui ?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle une démocratie. C'est toujours la même question. La démocratie, ça implique évidemment des élections libres et honnêtes, mais ça implique plus que cela. Donc, au-delà de l'élection qui va se dérouler, les problèmes qu'on évoquait, que ce soit des marges de manœuvre contre des extrémistes attaquant des musulmans, que ce soit l'instrumentalisation de certaines agences d'État. Là, la question est posée, comme la question est posée de voir le poids que prend ce qu'il est convenu d'appeler le capitalisme de connivence dans le pays, c'est-à-dire les liens entre le Premier ministre et quelques grands oligarques, puisqu'on commence à reprendre ce terme d'oligarque à propos de l'Inde, en particulier avec le groupe Adani, qui est du Gujarat comme Narendra Modi, le groupe Adani qui vient de racheter il y a quelques mois la dernière grande télévision privée qui gardait une certaine marge de manœuvre par rapport à par rapport au pouvoir. Donc, on est en train d'évoluer vers ce que certains analystes pourraient appeler une démocratie illibérale. Et c'est aussi un des enjeux, donc, de savoir est-ce qu'un troisième mandat renforcerait cette tendance, qui va de pair d'ailleurs avec un certain culte de la personnalité de Narendra Modi. Pendant l'année de la présidence indienne du G20, New Delhi, entre autres, était couverte d'affiches avec la photo du Premier ministre. Dans tous les documents qui rendent compte de l'activité du gouvernement, à chaque page, il y a la photo du Premier ministre. Je soulignais que dans un événement religieux, donc, il avait pris un rôle essentiel.
Et on va conclure là-dessus.
Donc, il y a, dans les interrogations qui sont posées, le poids du chef, en quelque sorte, hein, avec ce que certains sondages d'opinion, bon, il faut toujours les prendre avec des pincettes, mais certains sondages soulignent qu'une part croissante de la population aurait ce que certains politologues appellent une fatigue démocratique et verrait dans l'autoritarisme.
Mais merci beaucoup Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior à Asia Centre. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Décryptage.